Bonjour chers auditeurs, au micro Paul-Ouzi Meyerson qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix, une émission sur Radio Shalom. Voilà, le suspense est terminé, nous savons qu'il y aura une alternance au Parlement israélien. Le Likoud de Benjamin Netanyahou sort victorieux de ces élections, puisqu'il est le premier parti avec 32 sièges de députés. Il formera le cœur du nouveau bloc de droite nationaliste et religieuse qui récolte 64 sièges, alors qu'il en faut 61 pour avoir la majorité à la Knesset. Dans ces conditions, Netanyahou devrait devenir le prochain Premier ministre d'Israël. On attend de connaître la composition de son gouvernement qui remplacera celui de Yair Lapid. Outre ces résultats, plusieurs faits sont à noter. D'abord, les sionistes religieux prennent la troisième place avec 14 sièges. Ensuite, le Meretz, parti de gauche historique d'Israël, héritier du Mapam, n'aura aucun représentant à la Knesset. Enfin, les partis arabes connaissent un recul important avec 10 députés au lieu de 15 dans le précédent Parlement. Ilan Rosenkier, sociologue, président des Amis de la Paix Maintenant et membre du bureau européen de J-Call, répond à mes questions. Il réagit à une situation politique qui n'est guère favorable à la réalisation des aspirations de ces organisations, deux peuples pour deux États, soit Israël à côté d'un État palestinien, les deux vivant en paix. Bienvenue sur notre antenne, Ilan Rosenkier.
Bonjour.
Bonjour, j'espère que vous allez bien, mon cher Ilan. Alors, avant tout, Ilan, comment réagissez-vous au fait que le parti Meretz n'ait aucun député élu à la prochaine Knesset? C'est quand même quelque chose d'un peu historique.
C'est effectivement une page qui se tourne, qui n'est pas particulièrement réjouissante, même si elle n'est pas surprenante, puisque ça fait déjà plusieurs élections que le Meretz est proche du seuil d'éligibilité, que dans des campagnes précédentes, on a joué ce qu'on appelle le Gewalt, c'est-à-dire au secours, venez à l'aide avant qu'on disparaisse. Les fois précédentes, ce type de campagne avait marché. Là, ça n'a pas marché. C'est sûr qu'un parti dont les leaders sont signataires de la Megillat Atzmaout, la déclaration d'indépendance, qui ont joué un rôle fondamental dans la création de l'État, dans le développement du mouvement kibboutzi, dans le développement de la Histadrout, dans le développement du système de santé qui a fait toutes ses preuves pendant la période du corona, et qui maintenant disparaît de la Knesset, c'est effectivement une page qui se tourne, sans doute pas la dernière de l'histoire, mais effectivement, il y a une certaine tristesse empreinte de nostalgie, mais voilà, c'est comme ça, et il faut faire avec.
Certes, mais enfin, la page n'est pas tournée, on peut revenir, hein,
c'est
pas...
C'est le principe du jeu démocratique d'alternance. Maintenant, simplement, cette fois-là, on est dans une situation un petit peu différente, c'est-à-dire que ce n'est pas un parti qui remplace un autre, c'est plus une conception de la société, du sionisme, qui risque de se substituer à une autre, et donc ça va au-delà de la dimension de politique politicienne et simplement de majorité, mais effectivement, rien n'est définitif, hormis ce que l'on sait, et on n'en est pas encore là.
On reviendra sur cet aspect de définition du sionisme. Alors, autre phénomène, Ilan Rosenkier, que je voudrais que vous nous expliquiez et commentiez, c'est la montée du sionisme religieux. Cette montée provoque en Israël, dans certaines larges couches de l'opinion israélienne, une vraie levée de bouclier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces sionistes religieux, parce que le sionisme religieux, ce n'est pas récent quand même, filent des boutons à tellement de gens en Israël?
Malheureusement, ça ne donne pas des boutons à suffisamment de gens, puisque c'est quand même l'élément fort de ces élections, le fait que ce parti soit le troisième parti. Clin d'œil historique, c'était le cas du Meretz... au milieu des années 90, lors des élections de 92, je crois, qui ont ensuite amené Rabin au pouvoir. C'était le troisième parti à ce moment-là. Et aujourd'hui, le troisième parti, c'est Atsionut Adatit, et le Meretz disparaît. D'abord, ce mouvement, déjà dans son intitulé, est une insulte au sionisme et aux religieux, parce que la conception du sionisme qu'il prône n'a rien à voir avec le... ou peut avoir, disons, soyons tolérants, avec le sionisme tel qu'a été défini celui qui a amené à la création de l'État d'Israël. Et non plus, du point de vue des religieux, on ne peut pas assimiler le monde, la totalité du monde religieux à cette prétention de cette organisation, car il y a le monde religieux est un monde divers, dans certains cas ouvert, et il y a tout un tas d'autres tendances qui ne participent pas du tout à de l'idéologie raciste, xénophobe, suprémaciste, que promeut ce parti, en fait, qui n'est pas un parti, qui est un groupement technique de trois partis, en particulier pour les sionistes religieux, en particulier le mouvement de Ben-Gvir, qui est un mouvement de la force juive, Otzma Yehudit, qui déjà, dans son intitulé, est assez prémonitoire. Tout un programme. Il y a un autre parti, petit parti, Noam, qui est un parti également raciste,
anti-LGBT.
Anti-LGBT, enfin tout ce qu'on veut. Et donc là, il s'agit d'un regroupement technique qui a été manipulé, mais avec brio, par Netanyahou pour éviter que des voix de la droite extrême se perdent, se dilapident, ce que Lapide lui-même n'est pas parvenu à faire avec les voix de gauche, et qui explique les dizaines de milliers de voix perdues et qui font défaut avec la disparition du Meretz. Voilà, bon. Et donc, ce mouvement sionisme religieux est dans l'idéologie, et pas simplement dans l'idéologie, dans les actions qu'il a menées. On a vu Ben-Gvir faire des provocations à Jérusalem, dans les quartiers arabes de Jérusalem, sur le mont du Temple, brandir un pistolet, lui qui n'a pas fait, l'armée, soutenir Baruch Goldstein, l'assassin des Arabes au caveau des patriarches, soutenir le mouvement kahaniste. Voilà, donc effectivement, on comprend qu'une partie de la population soit inquiète, d'autant qu'il revendique le ministère de la Sécurité intérieure, c'est-à-dire le ministère de la police, c'est-à-dire le ministère, l'institution qui est la plus en prise directe avec la situation sécuritaire et la cohérence, la cohésion de la société israélienne avec la population arabe. Et donc déjà, sa nomination, si elle est entérinée, et ça va être probablement le cas, mais je ne veux pas faire de scénario sur les planètes, on va attendre, mais déjà, cette revendication est en soi, indépendamment même de savoir si elle va être... autorisé ou non, est déjà une provocation à l'égard de la population.
Mais en dehors de ses positions vis-à-vis des citoyens arabes israéliens et des palestiniens, je crois que Ben-Gvir et Smotrich ont une vision très restrictive aussi de l'identité juive telle qu'elle se définit par rapport à la loi de retour, par rapport à la pratique religieuse, et aussi ils ont une définition des institutions démocratiques très limitée.
De ce point de vue-là, ils participent au mouvement d'extrême droite, entre guillemets. C'est une remise en cause de la Cour suprême, remise en cause des décisions de la Cour suprême quand ça les arrange, parce que quand la Cour suprême a considéré que malgré ces dossiers judiciaires, Netanyahou pouvait se présenter aux élections, à ce moment-là, il n'y a pas eu de contestation de la décision de la Cour suprême. La contestation de la Cour suprême, c'est seulement quand, de temps en temps, elle prend des décisions contraires à la opposition de la droite et de l'extrême droite. Ils veulent obtenir la possibilité pour les Juifs de monter en masse sur le mont du Temple et d'y prier, ce qui est une violation du statu quo, et ce qui est contraire aussi à toute une conception religieuse d'Attit sur le mont du Temple, ou du temps du Rav Kook et d'autres courants. Il était interdit par le rabbinat de prier sur le mont du Temple, parce qu'on ne savait pas exactement où se trouvait l'emplacement du temple, et donc il fallait pas violer la sacralité de cet emplacement. Donc en voulant monter sur le mont du temple, c'est pas tant une mitzvah, une obligation religieuse, qu'une volonté politique de provocation, de façon à montrer, à démontrer que ce lieu nous appartient à nous les Juifs, et qu'à nous les Juifs, et que nous pouvons y faire ce que nous voulons, et que les Palestiniens dans cet emplacement ne sont que à la limite tolérés. Et rien d'autre. Et c'est donc une approche uniquement politique qui est camouflée sous une apparence, sous un vernis religieux, ce qui n'est pas le cas, bien entendu.
D'accord. Alors, il y a un autre phénomène, Ilan Rosenkir, c'est le recul des partis arabes. Ils ont perdu un tiers de leur siège à la Knesset. Je crois qu'ils en ont 10 au lieu de 15. Oui, on explique ça?
Ils en ont eu 15 au moment où ils se sont présentés sous une liste commune, c'est-à-dire tous les partis arabes réunis dans la Knesset précédente, ils avaient le même nombre de députés. Et effectivement, ceci étant, on ne peut pas leur faire porter la responsabilité de l'échec de la gauche, hein, et du camp démocrate. C'est d'abord...
D'autant plus qu'il y avait des partis qui ne sont, sont pas de gauche.
Alors, tout à fait. Alors, d'une part, il faut dire, et je préfère le dire maintenant avant la dernière minute, qu'effectivement, il y a une victoire de la droite, c'est incontestable, mais que cette victoire est loin d'être un raz-de-marée, contrairement à ce que d'aucuns laissent penser. Le Likoud a gagné 2 sièges, mais il n'a pas réalisé les scores de son époque historique où il avait bien plus de députés. Il a gagné de nouveaux électeurs, mais en pourcentage, il a légèrement diminué. Et que si on additionne les voix, en termes de voix, des partis qui se revendiquent de la droite et de l'extrême droite, et la voix des partis qui étaient opposés à Netanyahou, pas forcément des partis de gauche, aussi des partis de gauche, mais aussi des partis de droite. Gideon Saar, qui est opposé à Netanyahou, ne peut pas être qualifié de gauche, mais qui, pour des raisons morales, éthiques, de fonctionnement démocratique, sont opposés à Netanyahou, on est quasiment à égalité. Il y a un différentiel de 30 000 voix, ce qui veut dire que, quand on dit le peuple s'est prononcé et a dit son mot, à Amamar et Dvaro, le mot qu'il a dit, c'est le mot de la moitié de ce peuple, et ce qui implique donc normalement une responsabilité à l'égard de cette minorité qui est bien davantage qu'une minorité. Et donc là c'est quelque chose d'important. La droite et l'extrême droite n'ont pas eu un blanc-seing de la population à faire ce que bon lui semble.
Quand vous dites population, vous parlez de tous les citoyens d'Israël, juifs, arabes, chrétiens, voilà.
Oui, du corps électoral.
D'accord.
C'est du corps électoral. Quand on additionne les voix des partis qui étaient opposés à Netanyahou, soit en fonction de sa personnalité et de son fonctionnement antidémocratique et corrompu, soit pour des raisons politiques opposées à sa politique sociale et économique, libérale, opposées à ce qui se passe dans les territoires. Donc ce sont des populations différentes, mais qui ont un point commun dans l'opposition à la dérive que Netanyahou était susceptible d'entraîner s'il revenait au pouvoir. On est, avec un léger avantage de la droite, on est grosso modo à égalité. C'est un différentiel d'entre 30 et 40 000 voix entre ces deux blocs.
D'accord. Donc ce n'est pas une question de gauche contre droite. Bon, c'est une question du bloc Netanyahou contre bloc anti-Netanyahou. Parce que dans le bloc anti-Netanyahou, vous avez Meretz, Avoda, mais vous avez Yesh Atid ou alors le parti de Gantz. Est-ce qu'on peut les appeler? Est-ce que c'est ça la gauche aujourd'hui en Israël?
Non, c'est pour ça que ça ne se pose pas en termes de gauche et de gauche contre droite. Le parti Gantz n'est pas un homme de gauche et ne se revendique pas comme un homme de gauche. on englobe dans cette répartition que j'ai fait les partis arabes donc, qui ne sont pas des partis de gauche, bon, à part éventuellement le Hadash.
Ram, c'est un parti conservateur.
Ram est un parti conservateur. Mmh. Balad est un parti nationaliste. Mmh. À la limite, ce n'est pas son problème, mais voilà. À la limite, il n'y aurait que Hadash qui, en tant que se rattachant au mouvement communiste, pourrait être qualifié de gauche. Mais encore une fois, là, c'est aussi la dimension nationale qui l'emporte. Donc, c'est vrai qu'il y a une disparité, voire une composition hétéroclite de ce bloc opposé aux dérives à la fois idéologiques et démocratiques qui menacent Israël par opposition au bloc dit de droite, mais qui, là aussi, pour la question des religieux, le Parti unifié de la Torah, il ne se situe pas ni à droite ni à gauche, il est d'abord et avant tout religieux, il s'occupe de ses affaires, il veut obtenir les financements pour son réseau scolaire, pour ses yeshivot, pour sa population. La question droite-gauche n'est pas pertinente. Ce qui est pertinent, c'est effectivement cette évolution de la société, de quel type d'Israël voulons-nous. Dans la définition, dans la déclaration de la proclamation de l'indépendance, il est question d'Israël, État juif et démocratique. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre simultanément. Alors c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai qu'il y a des tensions, c'est des équilibres instables. Dans certains cas, la balance penche du côté juif, dans d'autres cas, penche du côté démocratique. Mais avec cette volonté, malgré tout, de tenir un certain équilibre entre les deux pôles. Et c'est cette volonté de maintenir cet équilibre qui est, alors on ne va pas crier au loup avant, mais en tous les cas, qui est mise en danger, qui est contestée par la majorité qui vient d'arriver au pouvoir actuellement.
D'accord. Donc on en revient un peu à ce que vous avez dit au début. Là, il nous reste encore quelques minutes, on va l'aborder, on va aborder deux questions. Il y a une nouvelle façon d'entrevoir le sionisme à travers un prisme très identitaire. Alors qu'avant, c'était un prisme plus politique.
Alors, c'est une question d'équilibre. C'est vrai que dans la dimension du sionisme, il y a toujours une dimension identitaire forte. Le sionisme, mouvement national de libération, d'auto-émancipation du peuple juif, dans un cadre étatique, parce que c'était celui qui était pertinent à la fin du 19e siècle et pendant le 20e. Donc la dimension identitaire était toujours forte. Et ensuite, puisqu'il fallait que cette auto-émancipation se réalise dans un cadre étatique, il y avait bien entendu une dimension politique pour la création des institutions dans le jeu diplomatique international, mais les deux étaient présentes. Sauf que dans la dimension nationale, telle qu'elle prévalait parmi le courant majoritaire du sionisme, il y avait quand même, outre l'attachement indéfectible à Israël, Eretz Israël, la terre d'Israël, la terre de Sion, une ouverture. C'était pas une conception étriquée du peuple juif, refermé sur lui-même, qui porterait la lumière aux nations et que les goyes n'auraient qu'à simplement se soumettre à ses desiderata et lui ferait ce qu'on lui semble. C'était là aussi un équilibre entre le singulier et l'universel. Et donc cette volonté de prendre en considération aussi l'existence de l'autre, la reconnaissance de l'autre, dans la reconnaissance de ses différences et de ses identités propres. Voilà, donc je ne pense pas qu'on puisse opposer frontalement la dimension identitaire et la dimension politique.
D'accord. Alors une dernière question, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps là, si vous pouvez répondre brièvement. Vous promouvez, vous vous battez depuis des années pour la solution de peuple, deux États. Là, ça va être dur.
Oui, les choses risquent d'être plus compliquées. Attendons de voir ce qui va se passer. On est dans une situation où effectivement, la Tsionouda Dati va jouer un rôle déterminant de faiseur de roi. parce que c'est eux qui, avec les 14 sièges, vont assurer la majorité ou la stabilité du gouvernement à venir. Or, Netanyahou, compte tenu des dossiers judiciaires qui pèsent sur lui, a absolument besoin de maintenir cette majorité et d'obtenir un certain nombre d'évolutions législatives pour lui permettre d'échapper ou d'atténuer les risques judiciaires qui pèsent sur lui. Donc, dans une situation normale, il aurait été à même de taper sur la table et d'imposer son point de vue. Là, on est dans un contexte qui est beaucoup plus délicat et on va voir ce qu'il en est, sachant qu'on sait déjà qu'un certain nombre de revendications de la droite extrême ne seront pas réalisées parce qu'il y a un environnement international, parce qu'il y a des traités qui ont été signés par
les institutions.
Il y a les institutions. Alors,
l'opinion publique.
Il va y avoir des problèmes. Bon, l'opinion publique, c'est plus compliqué parce qu'elle existe aussi, mais est-ce qu'elle sera à même de faire pencher la balance? L'opinion publique, là, il y a eu une interrogation grandeur nature avec les élections. Et on a vu que l'opinion publique n'était pas tout à fait au rendez-vous puisqu'elle s'est répartie moitié-moitié. Donc, voilà, nous verrons bien. Le temps sur Paris est gris aujourd'hui. Sur la démocratie israélienne, elle l'est aussi. Le temps aussi est ainsi. Il ne faut pas non plus l'enterrer trop vite. Elle a déjà montré dans le passé qu'elle était capable de
rebondir.
Voilà, donc, puisque c'est un terme à la mode, il y a effectivement cette capacité de résilience. Espérons qu'elle pourra se concrétiser. En tous les cas, l'action sur le terrain continue. Il va y avoir des actions qui sont prévues ce week-end pour la question des cueillettes des olives, parce que depuis des mois, les colons se donne à cœur joie dans les territoires occupés, même si on en parle assez peu à la presse. Et donc, les actions de mobilisation et de militantisme sur le terrain, aussi bien en Israël que dans les territoires occupés, continuent. Et nous serons aux côtés de ceux qui ne renoncent pas pour l'instant.
Ok, écoutez, merci d'avoir participé à notre émission Ilan Rosenkir et d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. Et alors, bonne semaine à tous et à toutes. À dans 15 jours. C'était Paul Ouzi Meyerson à l'antenne de Radio Shalom avec Chronique pour la paix.